Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Belle semaine en perspective, une belle chronique en perspective aussi, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Et là, salut mon ami, comment ça va?
Salut tout le monde, ça va bien?
Oui, content de te retrouver, puis t'arrives de loin pour nous parler. On commence hors registre de la Fédération canadienne des contribuables. T'es allé à un sommet Forbes des moins de 30 ans. Prometteur, je ne sais pas exactement le terme qui est utilisé, au Botswana au cours des derniers jours.
Oui, exact. C'est la deuxième édition du sommet Forbes pour les moins de 30 ans, donc pour les entrepreneurs africains et à l'extérieur de l'Afrique, bien sûr, parce que bon, okay. Vous savez, je ne suis pas basé en Afrique, mais c'est vraiment un événement qui permet le réseautage puis vraiment d'aider les entrepreneurs des quatre coins du continent à justement trouver des... dans le fond, des projets communs, que ce soit dans le fintech, dans le développement des technologies de pointe ou même dans le développement énergétique. Donc, il y avait vraiment de toutes les sortes de catégories possibles. Mais c'est ça, ça avait lieu, en fait, à Gaborone, qui est la capitale du Botswana. Puis le Botswana, pour ceux qui ne savent pas, pour situer rapidement sur la carte, l'Afrique du Sud étant le plus au sud de l'Afrique, c'est juste au nord de l'Afrique du Sud, essentiellement. Donc, c'est enclavé entre plusieurs pays dans ce qu'on appelle l'Afrique australe. Puis, ben c'est ça, moi, j'ai été pour deux raisons. D'un, c'était comme mes deux semaines de vacances, fait qu'il y avait un peu de tourisme là-dedans. Wow. Puis aussi, le fait que je participais au sommet pour ne serait-ce que pour vraiment faire du réseautage avec les gens sur place. Et l'autre partie du projet, c'est que j'accompagne des compagnies qui veulent travailler avec des entreprises locales dans le domaine énergétique pour développer, le réseau énergétique du Botswana et des pays alentours. Puis, ils font surtout dans le solaire et dans le gaz naturel.
Okay.
Et ben c'est ça. Donc on aidait vraiment au développement de ces nouvelles entreprises qui vont naître tranquillement dans cette section du monde-là. Puis ben c'est ça. Ça explique un peu sommairement mon voyage, mais j'ai aussi fait quand même quelques safaris, puis je me suis promené, puis j'ai eu du fun. Mais essentiellement, c'est un voyage qui était à la fois d'affaires et touristique, si on veut. Okay.
J'ai plein de questions. Botswana est pas un pays des plus pauvres en Afrique. Comment t'as trouvé la société? As-tu été en sécurité tout le long? Comment les transports se sont passés aussi? Tu sais, je comprends, l'arrivée à l'aéroport, ça se ressemble toujours un peu, mais après, raconte-nous, exemple, depuis l'aéroport jusqu'à ton hôtel, comment ça s'est passé? Parle-nous des transports. Un peu souvent, c'est là que tu vas pouvoir jauger le tissu social de où t'as atterri. Comment t'as trouvé le Botswana?
Ben, essentiellement, c'est un pays que, je peux vous dire, c'est extrêmement sécuritaire par rapport à pas mal n'importe quel autre pays, je dirais, sur le continent ou même ailleurs, là, je veux dire. Faut dire qu'en 1966, c'était vraiment un des pays les plus pauvres de la planète quand ils sont devenus indépendants. Puis, tu sais, pour donner une idée, c'est gros comme la France, mais il y avait 5 kilomètres de route pavée en 66. c'est le pays. Mais depuis ce temps-là, écoute, la capitale est resplendissante. C'est vraiment une très belle ville, très propre, très facile à la circulation, en fait. Avant, il y avait un paquet de carrefours giratoires dans la ville, puis ils ont remplacé par des overpass. Mais
non.
Je vous jure, les overpass, là, ils en ont construit quand même 5-6 à la grandeur de la ville, sont immenses et ils n'existaient pas en 2019. Ils ont vraiment construit des ponts et des routes comme ça se peut pas au coin des dernières années, ça, malgré les conditions de la pandémie qui avaient affecté une partie de leur économie, là, qui repose beaucoup sur le tourisme aussi. Mais au final, juste pour donner une idée, c'est vraiment très facile de circuler. J'ai fait en fait tout l'est du pays, donc du sud jusqu'au nord, donc quasiment de la frontière de l'Afrique du Sud jusqu'au Zimbabwe, qui est au nord du Botswana essentiellement. Fait qu'on a fait de la route, puis je peux vous dire que, je veux dire, c'est sûr que c'est pas les mêmes routes que le Québec. On conduit à gauche également, donc on conduit comme en Angleterre. Fait que ça, c'est quelque chose avec lequel il faut s'habituer rapidement qu'on arrive sur place, mais la circulation est assez fluide, puis j'ai vraiment pas eu de difficulté sur les routes. C'est quand même des très belles routes. Faut juste que vous assurez d'avoir un véhicule qui a de l'air climatisé, parce que là-bas, en hiver, fait 32-33. Puis un 33 steak, mais en été, c'est 45 à l'ombre. Donc, préparez-vous en conséquence pour ces conditions-là. Mais pour le reste, je dirais, l'économie est très accessible. Les gens sont très accueillants. Vraiment, il n'y a pas de... Puis ils ont vraiment des lois très strictes qui font en sorte que c'est un pays des plus pacifiques. Je peux dire que si vous êtes un touriste d'aller là-bas, vous ne devriez pas en avoir... Vous devriez vraiment pas avoir de problème avec les gens sur place. Mais il y a d'autres pays où est-ce que je serais peut-être moins à l'aise de
Même l'Afrique du Sud, il y a des zones où c'est pas nécessairement recommandé d'aller. Botswana me semble dans les stabilités les plus impressionnantes d'Afrique. Il y a le Rwanda récemment qui est surprenant, mais il y a peu d'endroits où vraiment à la grandeur du pays, pas mal, là, tu peux être en paix comme ça. Les safaris, généralement, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Je veux revenir au forum en soi, là, mais parle-moi de bébite. Qu'est-ce que t'as vu? Tu veux un lion? Un rhino?
Ben pour les safaris, non, on a vu plus des animaux peints, zèbres, girafes, antilopes, des singes, des macaques, toutes les plus exotiques de la place. Mais pour venir au sommet, des discussions, par contre, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'on était vraiment en contraste avec les discussions qu'on a au Québec sur tous les enjeux. Mettons qu'au Québec, on a récemment eu un renversement de tendance là, sur la question, ben pas de tendance, mais on a eu un 180 degrés du gouvernement sur le troisième lien, alors que pendant ce temps-là, il y a un pont qui est quasiment deux fois plus gros qui a été construit entre le Botswana puis la Zambie.
Pendant que nous autres, on zigonnait, les autres n'ont construit un au complet, juste pendant qu'on se questionnait. Ça, c'est très évocateur. Waouh!
Ben, c'est ça, là-bas, ici au Québec, on a souvent cette mentalité que pour qu'une entreprise puisse aller de l'avant, puisse se faire une place sur le marché, il faut qu'elle soit subventionnée. Là-bas, ben, on n'a pas de subvention. On va y aller plus safe. On va donner des allègements fiscaux. On va s'assurer que le monde paye le moins de taxes que possible. C'est presque un paradis fiscal, honnêtement, parce qu'une entreprise qui se lance là-bas, une jeune entreprise, donc une start-up, ils payent pas d'impôts pendant les 5 premières années d'opération. Puis après ça, c'est des taxes qui sont capées à peu près à du 15-20% maximum sur toutes. Mais ils ont vraiment c'est très peu de réglementation. Il y a juste il y a pas de taxe municipale, il y a pas de taxe provinciale, il y a un seul palier d'imposition. Un seul palier d'imposition, pas en termes de bracket de taxes, mais au final, c'est vraiment très, très accessible pour les investisseurs comme pour les gens sur place qui veulent se lancer en affaires. Fait que il y a vraiment une économie qui est en train de naître dans cette place-là du monde qu'on n'entend pas souvent parler dans les médias
en général. Pourtant, l'avenir est là. La démographie, c'est de ce côté-là que ça explose. Là. L'Asie, ça s'estompe. L'Europe et l'Amérique, on le sait bien. Fait que ça se passe en Afrique dans les prochaines décennies. Je note ça pour des investissements éventuels. Pas rendu là, mais c'est intéressant à plein. Et le sommet Forbes, là, c'est bien le magazine Forbes, la famille Forbes, c'est qui organise ça? C'est bien...
Oui, c'est bel et bien Forbes. Ils organisent des sommets à peu près sur tous les continents en général. Généralement, ils ont deux types d'événements. Ils ont un événement comme, je dirais, plus pour adultes. Je dirais, comme plus pour les grandes entreprises. Puis, tu sais, moi, en bas de 30 ans, t'es quand même adulte, mais généralement, ça, c'est plus un auditoire de nouvelles startups qui se lancent et qui veulent connaître là des moyens de justement se hisser vers le haut. Mais en fond, c'est ça, ils font des événements un peu partout. C'était la deuxième édition du Sommet Forbes dans toute l'histoire là, de l'Afrique. La deuxième fois, elle avait lieu à Gaborone, juste pour vous dire à quel point c'est vraiment un pays qui accueille ouvertement ce genre d'initiative-là. Vous en avez partout sur Terre. Les thématiques sont pas nécessairement les mêmes à chaque fois. Mais tu sais, par exemple, là, c'était vraiment la discussion, c'était vraiment comment est-ce qu'on aide les entreprises à se lancer en affaires à travers surtout les technologies. Faut dire que partout en Afrique, on penserait pas ça. On dirait qu'on n'a pas cette image-là, malheureusement, dans nos médias. Mais généralement, en général, tous les pays d'Afrique ont plusieurs initiatives qui aident les jeunes à se lancer dans le fintech, dans le développement des intelligences artificielles, dans les startups qui sont plus dans le domaine pour aider, par exemple, les transactions bancaires, ce genre de choses-là. Fait que ça fait en sorte qu'il y a une dynamique qui se crée, qui est complètement oubliée, mais qui va... L'Afrique, dans certains endroits, selon les pays, puis... Le continent en général, vous allez avoir l'impression qu'il y a un sous-développement. Mais après ça, quand vous discutez avec les gens, quand vous rencontrez le milieu des affaires puis la jeunesse africaine, c'est une autre discussion. Ils sont déjà en l'an 2100. Ils ont déjà une vision à très long terme. Puis pour vrai, c'est encourageant de voir ça, puis de me déconnecter un peu de cette discussion que j'entends un peu trop au Québec, où est-ce qu'on parle de décroissance, où est-ce qu'on parle de s'empêcher de construire des ponts ou de pas construire de terminal gardier parce qu'on veut protéger la planète. J'ai un petit peu à vous dire, GNL Québec, il y a des fortes chances que ça naisse ailleurs qu'au Québec dans les prochaines années, puis ça se peut que ce soit dans cette région du monde-là, justement parce que c'est plus intéressant pour les investisseurs puis pour les gens qui veulent vraiment supporter ce genre d'initiative-là. Fait que, bref, ça pour dire que l'Afrique, l'Asie, c'est des continents qui offrent vraiment des discussions qui sont très intéressantes, puis j'invite les gens à s'y intéresser également.
J'ai un texto qui est rentré, et c'est une question que j'avais en tête, je veux rien enlever à l'auditeur. Est-ce que la Chine a permis au Botswana de se développer? Est-ce que c'est la Chine? Puis moi, ça m'est venu quand tu me parlais des overpass. Ils construisent des infrastructures, eux autres. Quel est le rôle de la Chine? Comment t'as entendu parler du nouvel empire?
Oui, il y a un peu de la Chine un peu partout en Afrique, dont le Botswana. Par contre, le Botswana joue safe sur cette question-là, pas parce qu'il veut se protéger de la Chine nécessairement. Il veut juste accueillir tous les joueurs de manière équitable. C'est un pays qui mise beaucoup sur le développement de son économie avec en invitant les investisseurs à se développer sur son territoire. Puis ils veulent pas, par exemple, donner tous les contrats à un joueur puis se mettre finalement les autres à dos. Donc, ils font entrer au compte-gouttes les contrats avec la Chine. Essentiellement, la Chine, de ce que j'ai compris, sur place, ils font surtout des contrats dans le domaine des infrastructures publiques. Donc, les fameuses overpass, effectivement, ça vient de la Chine. Par contre, si tu regardes le réseau d'aqueduc, le réseau qui alimente l'ensemble de Gabronné pour l'eau potable, ça a été fait par Israël. T'as un paquet d'hôtels qui ont été faits par l'Australie. T'as plusieurs compagnies de diamants et de charbon qui sont canadiennes, sud-africaines. Donc vraiment, il y a vraiment une économie. En termes d'investissement étranger, c'est très, très diversifié. Puis le Botswana veut garder ça de même. Donc, ils n'ont pas de problème à dealer avec la Chine, mais ils vont pas faire comme certains pays, puis carrément ouvrir tous les contrats, puis faire, embarquer, puis prenez tout. Ils sont très, très... c'est quand même assez safe. Donc, c'est ce qui est encourageant aussi pour les investisseurs, c'est... Et c'est aussi une crainte pour plusieurs, hein, parce qu'on sait que la Chine prend beaucoup de place sur les marchés internationaux et que l'Afrique est dans son collimateur, mais il existe des pays qui ont quand même des barrières pour se protéger de tabus de ce type-là.
Fascinant. On a un temps limité. Je passerai la journée à jaser de ça avec toi. Mais on voulait parler du gala des prix TD de la Fédération canadienne des contribuables et les dépenses les plus ridicules en termes de gaspillage 2022-2023. Il faut bien se garder du temps pour ça. Puis il y a le salaire des députés en plus à la fin, comme cerise sur le Sunday. Mais allons-y avec les dépenses les plus ridicules. Selon la FCC...
Oui, ben c'est notre 25e gala. C'était la première fois qu'on faisait une édition devant public. On a fait ça en Alberta, là, devant à peu près 200 personnes. Puis essentiellement, le principe s'est basé sur une vieille histoire là, dans les années 90. Un certain Ted Weatherhill, qui est un fonctionnaire qui avait dépensé pour $700 en repas, pour un repas à Paris avec une autre personne. Puis cette personne-là avait perdu sa job par la suite. Et depuis ce temps-là, la Fédération tient à chaque année un sorte de gala dont on informe en fait la population par rapport au pays gaspillage.
Wow.
On a quatre catégories. On a le municipal, le provincial, le fédéral.
Oh.
Et on a finalement ce qu'on appelle le Lifetime Achievement, donc vraiment la pire des pires, qui soit le gros cochon d'or.
Hors catégorie, c'est pas grave.
D'accord.
International.
Des grands lauréats, parce qu'il faut dire que c'est sur l'ensemble du territoire canadien, mais il y a quand même quelques lauréats que vous allez reconnaître rapidement. Je vois par contre pour le municipal, c'est moins connu. Mais juste pour donner une idée, c'est à quel point ça peut être ridicule. On a nommé, on a donné le lauréat à Alana Jankov, une conseillère municipale à Charlottetown. Elle, la niaiserie qu'elle a faite, essentiellement, c'est qu'elle a décidé de faire des rénovations sur sa maison. Elle a agrandi son garage, puis son garage s'est retrouvé devant un poteau téléphonique. Donc, elle a décidé de facturer les contribuables pour retirer le poteau téléphonique, alors que ça a été plus simple de juste faire des aménagements comme du monde pour sa maison. Donc, il a fallu qu'elle facture tout le monde pour le retrait d'un poteau qui aurait été clairement évitable. Mais ça, c'est la niaiserie la plus particulière qu'on a trouvée pour Charlottetown. Mais on va aller plus loin, parce que le Teddy provincial, ça, c'est plus proche de chez nous. C'est la Société de l'assurance automobile du Québec qui remporte la palme d'or du pays gaspillage. Faut le rappeler, avec sa clique, ça a coûté $458 millions pour finalement créer une crise qui est toujours pas résolue. Ça a forcé l'embauche de 150 fonctionnaires de plus. Et on est rendu à payer des millions de dollars en heures supplémentaires, sans oublier le fait que là, en plus, on a même pas eu une véritable démission ou comment dire, renvoi là, du PDG Denis Marcellet. Il s'est plutôt retrouvé transféré au conseil privé. Donc, essentiellement, personne n'a même payé pour la mauvaise gestion de cette crise-là qui a coûté énormément d'argent et qui ne rapporte aucune efficacité pour personne. Fait que ça, c'est au provincial. On espère que la SAQ va apprécier son cochon d'or. Maintenant, pour le fédéral, ben là, ça c'est j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises et ça se consolide. La gouverneure Marie Semin, gouverneure générale, pardon, Marie Semin, qui a dépensé 100 000 $ en repas d'avion pendant un voyage au Moyen-Orient.
Est-ce qu'on a des détails là-dessus? Parce que là, ça, pour vrai, tu sais, ça pue la corruption de type Lise Thibault. Il y a quelqu'un, tu sais, qui est parti avec un chèque de 95 000 $ à quelque part, là. Ça se peut pas, ça.
Ben, c'est une compagnie de restauration aérienne qui avait été mandatée par le corps diplomatique qui accompagnait Marie Semin. Mais essentiellement, c'était une découverte de la FTC. C'est nous qui avions trouvé les factures avec une demande d'accès à l'information, puis on les avait divulguées en exclusivité dans les médias, au National Post, puis ça avait vraiment mis en rung beaucoup de parlementaires qui aimaient vraiment pas là, le fait que les factures ils avaient pas été données comme il aurait dû l'être, ils n'avaient pas été publiées de manière proactive comme elles auraient dû l'être. Et en plus, 100 000 $ en repas une semaine, c'est complètement ridicule. Puis ça l'a permis de faire de la pression pour changer certains éléments des protocoles de voyage. Donc, les dépenses devraient coûter moins cher à l'avenir en termes de restauration aérienne. Mais pour l'instant, ça a permis vraiment d'exposer une dépense qui avait aucun sens. Puis finalement, on y va pour l'accomplissement d'une vie. Je vais donner un petit quiz pour vous autres, en fait. Qu'est-ce qu'ont en commun des détenus, des morts et des adolescents?
Chico, essaye quelque chose.
Des détenus, des morts et des adolescents.
Parle comme le gars, là.
Ben, moi, je pense que là, encore une fois, on divise les citoyens!
C'est proche, mais ils ont tous reçu la PCU. Faut se rappeler, durant la pandémie, il y a plusieurs milliers de détenus qui ont reçu des chèques. Il y a des gens, il y a des morts qui ont reçu des chèques. Il y a même des adolescents qui n'étaient pas en ordre de travailler, qui n'avaient même pas de compte bancaire, qui ont reçu des chèques à leur nom. En fait, au total, l'Agence du revenu du Canada a versé pas loin de 32 milliards de dollars à des personnes physiques ou morales qui n'avaient probablement même pas droit à cette.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet argent-là. Et l'Agence du revenu du Canada essaie même pas de récupérer cet argent-là. Il n'y a aucun effort réel. Et donc, c'est pour ça qu'on remet le prix de l'accomplissement d'une vie à l'Agence du revenu du Canada.
Ah oui, OK. Assurément. Et en plus, ils vont gosser du monde, tu sais, qu'ils ont payé du chômage en masse toute leur vie. Puis là, eux autres, par exemple, ils vont se faire zigonner, comprends-tu? Les détenus, puis des gens qui avaient vraiment pas mérité ça, qui avaient jamais contribué, eux autres, on va laisser tranquille. Total. Exact. Ouais. Mais c'était quoi de canceller les chèques, tu sais? En tout cas, ben c'est Justin Trudeau, au final, qui a la palme de tout ça. C'est lui qui tire les ficelles pour qu'il y ait de la pression ou pas. Puis l'Agence du revenu, je rappelle, embauche massivement. C'est certainement pas pour être sur le dos de gens qui contribuent pas. C'est, puis non plus pour être sur le dos de ceux qui ont des milliards dans le patrimoine. Non, c'est le monde qui se grouille. Puis surtout ceux qui prennent des risques qui sont pas dans une norme de travail 9 à 5 pour un employeur de grande envergure. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est pour ça qu'on embauche autant de monde.
Pour je pourrais quasiment dire que c'est un peu même politisé dans cette mesure-là, où est-ce que le gouvernement, il n'y a pas de l'attitude pour faire pression sur l'Agence du revenu du Canada pour aller chercher cet argent-là dans les poches des gens qui en ont reçu, et qui, tu sais, parce qu'il y a peut-être pas juste des détenus puis des morts des adolescents, il y a aussi peut-être des gens qui en ont reçu plus qu'ils ne devraient, mais qui, à cause de l'inflation, à cause de la hausse des taux hypothécaires, à cause de la hausse du coût de la vie en général, ben, cet argent-là a été volatilisé dans les dépenses, dans les paiements de factures. Puis là, on parle quand même de 32 milliards. Donc, il y a de l'argent pas à peu près qui se retrouve dans des poches de gens qui ont peut-être pas les moyens de rembourser. Donc, faut dire, est-ce que c'est je vais pas dire que nécessairement le gouvernement Trudeau s'empêche d'aller chercher cet argent-là par peur d'avoir des pertes électorales liées à ça. Mais on dirait qu'il devrait y avoir une motivation à aller récupérer cet argent-là, mais il y en a pas. Comme on le disait, vous devez peut-être 100 $ à l'ARC, vous allez recevoir des avis à chaque mois jusqu'à ce que vous remboursez, vous allez payer des intérêts puis des pénalités. Mais 32 milliards, il n'y a pas un seul effort qui est fait pour récupérer cet argent-là. C'est carrément absurde et oui, malheureusement, il y a du monde qui en ont profité puis qui ont probablement jamais payé d'impôts.
Mais à la base, d'émettre des chèques sans demande, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu encore Éric Coeur qui gérait l'informatique là-bas? Ah non, c'est vrai, ils ont engagé la même compagnie au provincial pour sa clique Phoenix, probablement aussi qu'il y a eu le contrat de gérer qui a droit à PCU ou pas, puis d'émettre ça au hasard demain.
Ah, ça serait bon de savoir qui est effectivement derrière l'Agence de revenus du Canada, mais pour l'instant, ils ont le cochon d'or à vie, puis on va s'en rappeler pour toujours.
On parlait du dernier chef de l'Union nationale avant que tu arrives tantôt, Rodrigue Biron. Il a reçu de la PCU, lui, avec un homme décédé depuis quelques années. Probablement. Merci aux gens qui textent au 88-903-5969. Gardez ça pas loin, on va avoir des prix dans pas long. Mais parlant de prix, les députés ont les moyens d'acheter des choses plus chères. C'est l'inflation qui commandait une hausse de 30 000 piastres. C'est par année. Puis c'est effectif là?
C'est ça, il y a le projet de loi qui a été déposé jeudi dernier.
Il n'est pas adopté encore. Okay.
Il n'est pas encore adopté. Je pense que ça va être adopté d'ici un mois. Tout au plus, de toute manière, c'est quand même déposé par le gouvernement. Donc, généralement, les 90 députés, on peut faire passer à peu près n'importe quoi. Mais c'est quand même assez particulier de voir qu'il y a quand même certains partis de l'opposition qui résistent à cette offre salariale. Je suis obligé de donner des lauriers à Québec solidaire. Ça semble être le seul parti qui s'est clairement positionné contre l'augmentation des salaires des députés.
Je vais prendre ton propos parce que c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont pas d'accord. Mais ils savent très bien que ça va se produire quand même. Ce sont des étatistes de premier ordre. Alors, ils ont le beau jeu d'avoir le beurre puis l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils vont chercher l'appui de ceux qui s'indignent de la patente, mais ils vont chercher le salaire pareil quand même ils disent n'importe quoi. Ça va se verser dans leur compte de banque. Je serais curieux de voir si les bottines suivraient Babine. Laissez-le sur la table.
Exactement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont être cohérents jusqu'à la fin si jamais ils reçoivent l'augmentation salariale. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la CAQ ne veut pas aller de l'avant tout seul avec l'augmentation des salaires parce qu'ils savent que là, ils vont mal paraître s'ils sont le seul parti à se donner l'augmentation puis être d'accord avec le rapport. Fait que là, il y a Québec solidaire qu'on sait qu'ils sont contre. Il y a le PQ qui n'est pas trop à l'aise, mais qui reçoit beaucoup de pression de la CAQ pour les appuyer. Il y a le PLQ qui dit, finalement, on va regarder où est-ce que les travaux de la commission sur le projet de loi vont aller, puis on votera en bout de ligne. Ouais, fait qu'ils sont sur la clôture, on ne sait pas de quel bord ils se positionnent. Mais au moins, on sait qu'il y a aussi le PCQ d'Éric Duhaime à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui s'oppose à l'augmentation des salaires. Ouais. Mais ce qui est le plus dommage là-dedans, c'est qu'on s'entend, le processus, il fait aucun sens. C'est carrément les élus qui décident de leur salaire et qui vont se le voter. Puis il faut dire que le 30 000 $ ça, c'est le nanan juste pour tous les députés où c'est la hausse salariale pour les indemnités de base. Donc, pour ceux qui n'ont aucune occupation.
Il y en a juste 10 nationale. Sur 125. Les autres vont avoir bien plus que ça. Un ministre, c'est quoi, 60 000?
C'est à peu près 53 000 de plus. Okay. Le chef de l'opposition officielle va aller chercher 100 000 de... pas loin de 63 000 de plus. Okay. En fait, le premier ministre va aller chercher 62 000 de plus également. Ça, c'est toujours, bien sûr, sans considérer les allocations de dépenses qui se lèvent à peu près de 40 000 par personne.
Oui.
Et vous allez avoir, en plus de ça, le fonds de pension qui est obtenu après deux élections, en fait, ou 6 ans de service. Mm. Et finalement, vous avez... le fait qu'ils ont une assurance collective qui est 100% backée par l'employeur. Donc, je veux dire, ils font déjà partie, avant l'augmentation des salaires, en ce moment, allocation et salaire, un député fait 138 000 au Québec. Ça, c'est sans les responsabilités supplémentaires qui peut donner des indemnités supplémentaires. Mais si vous regardez dans le reste du pays, Il y a personne qui fait un salaire similaire avec des allocations aussi élevées. On a déjà les députés les plus payés au pays. Et malgré ça, vous avez des exemples assez notables de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse qui ont refusé d'augmenter leur salaire cette année. Puis vous avez la Saskatchewan, où est-ce qu'il était, leur salaire était, il est encore du moins indexé à l'inflation. Et il était supposé augmenter de 6,8%, donc d'augmenter jusqu'à environ 113 000. Puis le parti de la Saskatchewan, donc qui est un parti conservateur, et le NPD à l'opposition, se sont entendus pour ne pas aller de l'avant avec la hausse salariale et plutôt de modérer ça à 3%, qui est un peu plus intéressant. Puis leur salaire va être plus dans les 106 ou 109 000 $ environ. Tout ça pour dire que, alors que tous les autres députés font preuve à travers le pays d'une solidarité envers les contribuables et d'une saine gestion de leurs finances publiques, de l'autre côté, au Québec, vous avez des parlementaires qui veulent se justifier une hausse qui va jusqu'à 30 000 $ de plus, tout en négociant, pour le rappeler, avec l'ensemble des employés de la fonction publique. Maintenant, ils négocient des conventions collectives où ils vont distribuer carrément des miettes à des infirmières, à des professeurs. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui va embarquer dans le jargon pro-syndical, mais on s'entend que le gouvernement va se mettre dans une très mauvaise position s'il s'octroie des gros salaires. Puis après ça, ils vont voir les syndicats qui leur disent « Bon, ben voici les miettes pour les 5 prochaines années, bonne chance. »
Mais ils vont donner aux syndicats ce qu'ils veulent, c'est garanti, comme Justin Trudeau. C'est le même genre de gouvernement. Les gens commencent à se réveiller un peu. OK, moi, la CAQ puis Trudeau, finalement, ça se ressemble pas mal. Mais là, ça va être une preuve supplémentaire. Je comprends que ça commande beaucoup de preuves avant de se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Là. Généralement, on est dans une torpeur, mais ça va avoir cette utilité-là. En même temps, ça va être extrêmement nuisible pour l'économie.
Absolument.
Parce que ça va pousser l'inflation très fort vers le haut.
Ben, on s'entend que ça aide pas. Puis, d'ici ce temps-là, je pense que ce qui peut aider pour s'assurer que nos politiciens ne s'en mettent pas plein les poches de manière impunément, carrément, dans leur écrivant. Écoutez, ça fonctionne. Nous, on le sait, on a déjà des listes de courriels qu'on envoie aux députés pour faire la pression. Mais j'invite tout le monde à appeler leurs députés ou à leur écrire puis à leur dire ce que vous pensez de leur payer une augmentation salariale. Parce que je suis persuadé que certains d'entre vous, surtout si on parle à des gens de Lévis, dans la région de Québec, vous avez vu un peu là, le résultat de certains de vos députés qui, on va se le dire franchement, vous ont induit en erreur par rapport au projet du troisième lien. Puis ces mêmes députés-là, qui n'ont pas été extrêmement honnêtes, on va se dire de même, ils vont recevoir l'augmentation salariale dans les 5 chiffres, pendant que vous, ben votre salaire suit à peine l'inflation. Fait que, écoutez, je pense que vous avez le droit, puis vous avez même à la limite le devoir de leur exprimer ce que vous pensez réellement de cette situation-là. Je vous encourage à être pacifique, être respectueux.
T'es cynique, t'es juste
honnête et direct.
T'es juste un maudit populiste. Martine Biron travaille très fort, OK? Ses repas, quand elle prend l'avion, une fois par 3 semaines, ça coûte juste 1000 piastres.
Ben oui.
Pas 100 000 comme l'autre madame à Ottawa. Okay,
écoute, ben, heureusement. Puis, tu sais, effectivement, en tout cas, moi, je pense qu'Éric Kerr, là, je suis déjà surpris qu'il soit encore en position après tout ce temps-là. Mais là, en plus, il va recevoir une augmentation salariale pour la gestion de ses dossiers actuels qui ne sont pas nécessairement les plus brillants.
Il doit encore de l'argent à la famille d'oranger, peut-être. Fait que,
ben, ouais.
Je sais pas.
Peut-être que ça l'aiderait, peut-être que ça l'aiderait pas, mais dans toutes les circonstances, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'ils méritent ou ont réellement besoin de cette augmentation salariale-là? Puis ça, c'est. Je pense que tout le monde peut trouver la réponse à cette question-là par eux-mêmes.
Au moins, il semble avoir changé de coiffeur et réussi à gérer son toupette. C'est déjà une belle avancée. Merci, Nicolas Gagnon. On se fait sourire comme on peut dans tout ça. C'est gentil de prendre le temps de nous parler. La Fédération canadienne des contribuables, on prend les dons. Et aussi, on peut s'informer par le site. Je te laisse prononcer l'adresse en se laissant.
Oui, c'est à contribuable avec un S.ca. Notre site est en construction. On aura bientôt avoir une grosse mise à jour, mais on met tous nos communiqués de presse. Et on a notre dernière pétition qui invite les gens à s'exprimer contre le gel, ben pour un gel des salaires des députés qui est également là, sur notre site web.
Bing! Merci!
C'est un plaisir. À la prochaine.
Mon ami Nicolas Gagnon, c'est une machine. Contactez-le pour, en tout cas, sa gang, pour contribuer. Ça, vous voyez, là, la démonstration est indéniable. Ça aide, c'est bon pour vous autres. Puis sinon, les partis politiques à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, ne font que très peu de cas des contribuables. OK, ah oui, les conservateurs, ils en parlent quand ils rentrent au pouvoir. ils ne réduisent que très peu les dépenses, puis souvent bien mal, notamment dans des places. Exemple, pour contrôler la surpêche. Stephen Harper avait réussi à faire ça. Et d'ailleurs, au prochain segment, on parle de santé océanographique avec Vicky Pedneau. Chico?
Oui.
T'as l'air d'un gars qui veut me dire quelque chose avant qu'on parte.
Ben, à date, là, on a reçu des nouvelles dernièrement, là, je te dirais, dans les dernières heures, de la pauvre cycliste qui a été happée sur la route du président Kennedy, coin des Ruisseaux, là, tout près du dépanneur Lisette. À date, présentement, sa situation serait critique, mais stable. Donc, on se croise les doigts pour cette adolescente qui, malheureusement, s'est faite frapper en vélo hier soir dans le secteur de route du président Kennedy,
coin des Ruisseaux. Je vais dire de quoi, là, que là, je... Je veux pas pointer de doigt pour ce décès-là, certain.
Ben là, premièrement, il n'y a pas de décès.
Pour cet accident-là, pardon. Ouais. Ben ouais, merci de me corriger comme il faut. Non, mais cet accident-là aurait dû peut-être être évité en ayant fait des aménagements pour le vélo. En tout cas, de la part d'un maire qui est un grand amateur de cyclisme puis qui a fait énormément d'installations. Puis je dis ça, je sais pas comment ça aurait dû être fait, parce qu'à Kennedy, il y a un espace limité, on s'entend. Là.
Ben, c'est pas vélo-friendly tellement.
Mais vraiment pas. Ouais. Puis ça s'engourdit de plus en plus, peut-être que ça pourrait aider. Puis de l'autre bord là, de l'autoroute, je pense que c'est pire, mais là, il y a plus d'espace. Fait que peut-être qu'on pourrait, avec ça, envisager... Parce que moi, il y a des trottoirs des deux bords.
Hey, j'y vais de mémoire, je crois que oui.
Toujours pensé qu'on pouvait se servir des trottoirs pour faire rouler des bicycles. Pas besoin d'enlever de voie aux automobilistes. Certainement pas besoin de faire comme sur Dalhousie. Ils sont en train de faire l'asphalte. Ils faisaient ça de nuit, hier. Wow! L'autre bord du fleuve, où on enlève toujours des voies aux automobilistes. C'est pas ça que je dis, là. Mais maintenant, tu sais, sérieux, la bicycle, là, moi, je pense que je permettrais pas à mes enfants de se promener en bicycle. J'habitais dans le centre-ville de Lévis, là.
J'aurais de la difficulté à lui laisser le feu vert. Je ne
promènerais pas moi non plus en Bessic. Ouais. Je suis Canadien, tu n'en croises pas d'ailleurs.
C'est vrai que c'est plutôt rare, tu vas avoir des piétons, mais pas beaucoup de vélos.
On comprend les cyclistes. OK, break.
Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat.
Autodesjardins.com.
CJMD.
Honnebourg.
Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg.
Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
L'Alternative Radio.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.